Réinventer un rapport poétique et sensible au vivant, c'est le désir de la compagnie Lapsus, qui présentait dernièrement Le Chant du Vertige, un spectacle de cirque engagé et poétique, dans le cadre du parcours du spectateur intitulé « Sous le signe du vivant » au Théâtre de la Maison du Peuple à Millau. Dans le hall du Théâtre de la Maison du Peuple, nous avons interrogé Stéphane Châtelard, son directeur, ainsi que Stéphane Filion, de la compagnie Lapsus, sur les liens qu'entretiennent pour eux l'art et le vivant. Le Chant du Vertige invite à réinventer un rapport poétique et sensible au vivant. C'est un lien qui aurait été rompu, qui aurait disparu.
Ah oui, de toute évidence. De toute évidence, l'espèce humaine a fait sécession d'avec le vivant. C'est Baptiste Morisot qui parle de ça très très bien.
Stéphane Filion, de la compagnie Lapsus.
Et qui explique comment on a oublié d'où on vient et comment on s'inscrit dans une continuité du vivant dont nous sommes qu'un tout petit bout et dont on a essayé de s'extraire, et dont on est arrivé à s'extraire malheureusement.
Et quel est votre lien au vivant et d'où vient-il à vous ?
Le lien au vivant, c'est ce qu'on essaye de convoquer au quotidien et je pense que c'est un des enjeux majeurs de la période qu'on est en train de traverser actuellement. Aujourd'hui, c'est une réponse individuelle plus que collective, je crois, savoir où est-ce qu'on arrive à se reconnecter, à se sentir appartenir à ce grand tout, sans rentrer dans des considérations un peu mystiques, mais je crois qu'il faut arriver à convoquer ce rapport au sol, à la terre nourricière, ce rapport à la multitude d'espèces dont on fait partie et dans laquelle on a envie de s'inscrire aussi.
Quel lien on pourrait recréer comme lien interespèces, à votre avis ?
Ah, ça, c'est une question qui est très vaste, qui est difficile, mais le seul fait, je crois, d'avoir conscience de s'inscrire dans une continuité et de se sentir dépendant des autres espèces, change le regard qu'on porte sur elle. Je pense à la fois au niveau animal et au niveau végétal. Ne pas considérer que ces espèces-là sont des ressources dans lesquelles on peut prélever, mais de considérer que sans elles, précisément, nous ne pouvons pas vivre, je pense que c'est déjà une manière de changer de regard et de se placer à un endroit qui n'est plus un endroit très anthropocentré, selon lequel tout est autorisé, tout est possible pour l'espèce humaine. Je pense que l'enjeu, il est là aussi.
Oui, donc on peut lire dans le texte qui décrit un peu le spectacle. Quelque chose cède sous nos pieds, tous les repères disparaissent brutalement. Le réel soudain nous glisse entre les doigts, tout bascule. Mais peut-être que le réel n'était pas vraiment le réel, mais une illusion de croire que tout allait bien alors que depuis longtemps on se foutait un peu de tout et de tout ce qui nous entourait, à part pour en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Sur scène, on peut voir du bois, des branches. Est-ce que c'est celles sur lesquelles on était assises et qu'on a coupées ?
Oui, en partie. On peut en effet voir les choses comme ça. Il y a beaucoup de lectures différentes de ce symbole du bois qu'on a eu envie d'amener sur scène. Pour nous, c'était aussi une manière d'avoir de manière très, très concrète un objet, un accessoire qui précisément ne soit pas qu'accessoire et qui soit quelque chose dont on a besoin aussi au plateau et grâce auquel on peut réimaginer des espaces poétiques qui permettent de tisser ces liens précisément qui nous semblent manquer un peu aujourd'hui entre le végétal, l'animal d'une part et les animaux humains que nous sommes aujourd'hui. Donc il y a eu envie de travailler avec cette matière du bois très 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 brute pour voir comment on pouvait accessoirement lui donner vie, mais surtout comment elle pouvait nous donner vie. On a en effet la sensation de se situer à un endroit de bascule, en quelque sorte, de l'histoire. C'est évidemment pas nous qui l'inventons, hein, mais cette impossibilité de poursuivre le modèle de supposé développement qu'on connaît depuis 50 ans beaucoup et même depuis la révolution industrielle et qui très clairement aujourd'hui est limité dans le temps. On s'aperçoit bien que tel que les choses fonctionnent, le modèle de production aujourd'hui est impossible à poursuivre. Et ben, il faut aujourd'hui, on a une nécessité générationnelle, même peut-être presque civilisationnelle, à inventer quelque chose de nouveau et les futurs désirables, il faut les créer, il ne suffit pas de les décréter. Et c'est peut-être là aussi qu'en tant qu'artiste, on a un rôle à jouer, on a une place à investir pour savoir comment on peut stimuler les imaginaires et comment on peut aider les spectateurs et les spectatrices modestement à se figurer un futur qui soit un peu plus désirable.
Du coup, je reviens sur le titre, le chant du vertige. Alors, c'est quel vertige, même si là, on a un peu compris. Et c'est quel chant? C'est le chant du cygne ou...
C'est en effet un jeu de mots avec le chant du cygne qui serait donc la dernière chose avant un vide, peut-être en l'occurrence la mort dans le chant du cygne. Et le mot de vertige, on y tenait extrêmement parce que très souvent, on parle du vertige comme d'une peur qui est légitime parce que l'avenir est fait d'incertitudes. Et on avait envie de voir aussi ce que le vertige pouvait avoir de stimulant, d'exaltant. Comment est-ce que face à toutes ces incertitudes, plutôt que d'approcher comme d'une falaise avec quelque chose qui va s'effondrer devant nous, on pouvait au contraire convoquer le plaisir de ce qui va être nouveau et de ce qu'on doit inventer de nouveau aujourd'hui et tous ces possibles-là qui s'ouvrent devant nous, plutôt que d'en avoir peur, on a envie de les embrasser et de rentrer et d'investir ce monde et de réfléchir à d'autres manières d'habiter le monde, non pas de manière hors sol, mais au contraire d'investir le territoire et de réfléchir à comment on peut penser l'avenir, non pas avec crainte et appréhension, mais avec désir et exaltation, sans quoi les perspectives seraient quand même un peu inquiétantes.
Donc une autre phrase qui présente le spectacle, c'est « Il nous plaît que les effondrements à l'œuvre portent en creux un élan de vie ». Quel est cet élan de vie pressenti et quel espoir vous portez, si vous en portez un? Mais j'ai cru comprendre que vous en portez un.
Oui, c'est un petit peu ce dont je parlais juste avant. C'est le fait d'imaginer qu'il y a une nécessité à changer les choses et que cette nécessité, en fait, elle nous donne une forme de responsabilité et même de... C'est beau, en fait, je trouve, de pouvoir imaginer cette suite. C'est une manière de considérer les choses, non pas de voir ce qui pourrait s'effondrer, mais de voir ce qui va nécessairement germer de ces choses-là. Et soit on a une vision des choses, de constater tout ce qui ne sera plus possible en termes de perte de confort, de qualité de vie, etc., tel que notre modèle de référence nous faisait penser le confort. Soit on voit toutes ces nouvelles manières d'habiter le monde qui seront nécessaires et qui en ça sont très stimulantes, je trouve, de se dire qu'il faut et que ça doit être beau, ces nouvelles choses. C'est la raison pour laquelle, au niveau esthétique, ce spectacle-là, on n'avait pas envie d'accentuer un côté très sombre et très noir, très chaotique, qui, en fin de compte, aurait été la solution la plus facile d'évoquer ces notions d'effondrement. Mais au contraire, on a cherché les endroits où il pouvait y avoir de la grâce et de la beauté dans ce temps de suspension, dans cet endroit où tout ce qui a continué de croître de manière supposée infinie pendant très longtemps va nécessairement décroître tôt ou tard. Et se dire que cette chute-là, elle n'était pas symbole de quelque chose qui se stoppe, mais qu'elle était l'occasion de trouver de la grâce et de la beauté dans ce nouveau qui s'ouvre devant nous.
Le vertige, c'est quand les certitudes s'échappent. Le vertige, c'est quand les repères se distordent. Et le vertige, c'est aujourd'hui. La compagnie Lapsus et le chant du vertige, c'est un cirque sensible et engagé. C'est un cirque qui parle et interroge les problématiques d'aujourd'hui. C'est ce qui vous préoccupe de travailler sur ces problématiques-là?
Oui, c'est là encore une manière de faire un travail qui est ancré dans une forme de réel et qui ne soit pas simplement quelque chose d'hors sol, de déconnecté. Déjà dans la création précédente, il y avait une envie de considérer le cirque comme quelque chose d'évocateur qui, là encore, peut stimuler les imaginaires de chacun et chacune. Et c'est vrai que dans ce spectacle en particulier, alors même que la thématique pouvait nous inciter à aller dans quelque chose qui était de l'ordre du message ou de la thèse, on ne voulait surtout pas aller là-dedans. On voulait rester dans ce que le cirque permettait d'évocation, de lien poétique avec notre thématique, mais ne pas arriver avec un message ou une intention de dire voilà quelles sont les solutions qui existeraient. On a eu envie d'éviter cet écueil-là et de rester dans quelque chose de très large dans la manière dont on incite à stimuler les imaginaires, mais sans apporter d'éléments de réponse surtout. Si bien que des spectateurs et des spectatrices qui verraient ce spectacle pourraient, sans avoir lu la feuille de salle, ne pas nécessairement percevoir ce dont on parle, et quelque part ça ne nous pose pas de souci. Si les gens ne voient pas a priori ce que nous, comment nous on pose et comment on incarne ces enjeux écologiques, si il et elle voient autre chose, très bien, très bien.
Donc le chant du vertige, c'est une création de fin 2021. Quel retour avez-vous eu de la part du public tout au long de votre tournée? Et avez-vous eu le sentiment d'insuffler une certaine sensibilité au vivant avec votre spectacle?
J'espère. c'est ce qu'on aimerait toucher du doigt. Après, il faudrait le demander aux spectateurs, aux spectatrices. Mais oui, on a eu, évidemment, on était confrontés à des personnes qui avaient été touchées, sinon bouleversées, c'est peut-être pas moi de le dire, mais en tout cas qui ont été très émues par ce qu'elles ont vu et parce que ça leur a permis d'avoir des images d'un monde différent en termes de relation qui pourrait exister entre les animaux humains et les animaux non humains, notamment le terme d'hybridité est quelque chose qui nous a beaucoup nourri dans le processus de création. Donc on espère avoir pu toucher quelques-uns et quelques-unes quand ils ont pu voir ce spectacle-là, oui.
Le Chant du Vertige est un spectacle de cirque qui a entre autres la particularité d'avoir été créé en partenariat avec le roman Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet.
Comment avez-vous connu, rencontré ce livre? Quel effet ça vous a fait pour que vous ayez envie de le mettre en cirque et de le mettre encore?
Alors, il se trouve que Pierre Ducrozet est un auteur qu'on connaît à titre personnel, c'est un ami depuis très longtemps, et en discutant, on s'est aperçu que la thématique dont il avait envie de s'emparer sur son futur roman, à l'époque, était très proche de celle dont on avait envie de s'emparer sur notre futur spectacle. Si bien qu'on a eu envie de croiser nos processus de création respectifs, et de voir comment, à partir d'une réflexion commune qu'on allait partager ensemble, on allait en créer deux propositions artistiques qui seraient très différentes, très singulières, mais qui auraient des éléments de lien visibles ou invisibles. Lui, comment il s'empare de cette thématique en tant qu'auteur en solo en littérature et nous en tant que co-auteur et co-autrice en collectif, en spectacle vivant. C'était assez amusant de voir pendant le processus de création comment lui, il concevait par exemple les personnages, quelle place il donnait aux personnages dans sa manière d'écrire le roman. Comment nous, on imaginait la composition de notre pièce par rapport à lui, comment il composait son roman. Et donc l'idée, c'était de partager des réflexions et de se dire, bon, ok, comment est-ce que toi, tu te saisis de ça dans ton roman? Comment est-ce que nous, au contraire, on l'investit, qu'est-ce que les corps permettent que les mots ne permettent pas, et réciproquement. Donc l'idée, c'était pas d'adapter le roman, pas du tout, c'était de se nourrir réciproquement, mutuellement des travaux des uns et des autres. Et c'était très intéressant de voir justement quels étaient les éléments qui se rapprochaient et ceux au contraire qui divergeaient. Il y en avait parfois dans le processus.
Et est-ce que, par exemple, il y a des personnes qui ont à la fois lu le roman, vu le spectacle et qui vous ont fait des retours par rapport à ce lien?
Et je pense, je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir qu'on ait eu particulièrement de retours. Si, c'est vrai. On a eu des personnes qui ont vu justement des éléments de personnages qui étaient présents dans le roman et qui nous ont dit « Ah, mais ça m'a évoqué tel personnage à tel moment. » Ou au contraire, il y a un voyage qui opère dans le roman avec une héroïne qui part et quelqu'un nous a dit « Cette scène-là, ça m'a vraiment fait penser quand elle laisse toutes ses affaires derrière elle et qu'elle part en embrasser le monde. » Et donc il y a eu des liens qui ont été faits. Toute cette matière-là du roman qui préexistait au spectacle, puisqu'il y a eu un an de décalage entre la sortie du roman et la sortie du spectacle, elle nous a davantage nourris, nous, en tant qu'interprètes, dans le processus de création, qu'on avait envie de la rendre explicite pour les spectateurs et spectatrices.
Donc on a parlé des deux formes du Chant du Vertige, donc le spectacle et le roman, mais il y a une troisième forme, les Grands Vertiges, c'est une lecture-spectacle. Alors c'est l'union des deux créations, quoi. Pourquoi une troisième forme? Qu'est-ce que ça apporte en plus?
C'est amusant, cette troisième forme, en fait, elle s'est imposée pendant le processus de création du Chant du Vertige, quand on s'est aperçu que les deux formes, le roman et la pièce, le Chant du Vertige, seraient dans leur nature très différentes et très éloignées, ce qui, on le pressentait au départ, et il y a un moment où on a eu envie, avec Pierre Ducrozet, de trouver un endroit de proximité plus évidente, où dans un même espace, on pourrait se faire se rencontrer la matière textuelle et la matière chorégraphique. Donc l'idée, là, dans cette version lecture-spectacle, c'est de travailler beaucoup en improvisation, de telle sorte que lui s'autorise à modifier aussi le texte, qui est évidemment déjà écrit et choisi, à partir de ce qui se passe au plateau, et nous, inversement, on se laisse davantage bercer par les mots qui arrivent, qui effleurent pendant qu'on est en train d'improviser. Et donc c'était une manière de... C'est aussi un plaisir qu'on s'est fait avec l'auteur de pouvoir se rassembler sur un plateau et d'avoir une mise en contact plus directe à la fois de sa matière texte et de notre matière corps pendant le processus de création.
Et quand vous dites que vous improvisez, donc c'est de la voltige, il y a du cerf-volant, il y a de la danse, il y a de l'acrobatie, c'est ça? Vous improvisez avec ces formes-là?
Alors l'improvisation, elle est très présente dans la forme Les Grands Vertiges, lecture-spectacle, et elle est quasi inexistante dans la forme Le Chant du Vertige. Et en effet, dans Le Chant du Vertige, on conserve une approche pluridisciplinaire dans les arts du cirque, avec le cerf-volant qui se rajoute aux techniques classiques, on va dire, de jonglerie et de portée acrobatique qu'on développait déjà avec la compagnie depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que le cerf-volant, par la légèreté de la toile et parce qu'elle peut suggérer de rapports très sensibles, c'est un objet qui nécessite quelque chose de très précautionneux dans les manipulations et pour le coup d'extrêmement fragile, et ça nous semblait assez riche de sens dans ce qu'on voulait signifier d'un équilibre très précaire et d'un quelque chose qui semble tenir mais qui très rapidement pourrait ne plus tenir.
C'était Stéphane Filion de la compagnie Lapsus, nous parlant de leur spectacle Le Chant du Vertige, dernièrement programmé dans un cycle sous le signe du vivant, au théâtre de la Maison du Peuple à Millau. Stéphane Châtelard, son directeur, nous présente ce parcours sous le signe du vivant. Stéphane, peux-tu nous parler du parcours du spectateur sous le signe du vivant ? Pourquoi et comment ?
En fait, ça s'est imposé à nous lorsqu'on a fait la programmation. On a vu qu'effectivement, cette thématique revenait dans beaucoup de spectacles. Et c'est quelque chose sur lequel on fait attention depuis plusieurs années. Et là, on voulait parler en fait du vivant. Alors, c'est un concept un peu large, qui est un peu dans tous les sens. Mais l'idée, c'est de replacer l'être humain au milieu en fait, de la nature, donc prendre de la hauteur. Se dire, c'est quoi notre place dans ce monde-là, comment nous on l'impacte et qu'on n'est pas les seuls à vivre sur cette terre. Donc voilà, c'est tout ça, et forcément on a trouvé plein de liens et plein de spectacles de la saison. C'est pour ça qu'on propose ce parcours qui va agrémenter aussi bien le parcours du public scolaire que le tout public.
Donc c'est une manière de mettre en lien des spectacles et de faire émerger une problématique contemporaine.
C'est ça, et puis on va pouvoir y faire autour des actions avec nos partenaires, que ce soit la médiathèque, le cinéma, Radio Larzac, autour de spectacles, soit autour de spectacles, soit des choses qui sont un peu plus loin mais qui sont liées au vivant.
Toujours dans son parcours du spectateur sous le signe du vivant, le théâtre de la Maison du Peuple de Millau accueille prochainement l'affût de la compagnie Retour d'Ulysse, ce vendredi 1er décembre à 20h30, un spectacle également créé en lien avec un roman, Les Grands Cerfs, de Claudie Hunzinger. Une femme chuchotant à notre oreille sa porosité avec le monde animal, sa réalité trouble entre deux mondes plongés dans un univers sonore, dans la nuit de la forêt, rempli de présence invisible d'un bestiaire sans nom. Pour un théâtre immersif, avec une création sonore de Marc Namblard, audio naturaliste.